Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. L'épidémie continue de créer beaucoup de ravages dans le monde et je suis sûr que vous faites tous de votre mieux pour essayer d'être bénéfique à vous-même et aux autres en suivant les recommandations qui nous sont données par les experts médicaux, en ne tombant pas malade nous-mêmes et en ne transmettant pas la maladie aux autres. J'espère également que vous priez pour toutes les personnes qui sont décédées, que ce soit suite à l'épidémie ou pour d'autres raisons, et aussi pour tous ceux qui travaillent jour et nuit, qui prennent beaucoup de risques et font face à de nombreuses épreuves, les médecins, les infirmières, les soignants et beaucoup d'autres personnes qui font en sorte que la société puisse continuer de fonctionner. La dernière fois, nous avons parlé un peu de la bodhicitta et de ses bénéfices, et nous avons donné une vue d'ensemble du livre « Le Bodhicaryavatara, la marche vers l'éveil » de ses 10 chapitres. Comme je l'ai dit, le but ultime ou la motivation principale pour devenir un bodhisattva et travailler sur le chemin du bodhisattva, c'est d'essayer d'apprendre et de pratiquer quelque chose qui puisse mettre un terme à tous les problèmes et à toutes les souffrances pour moi-même et tous les êtres. L'idée étant que si je veux mettre fin à tous les problèmes du monde, je dois commencer par apprendre à le faire pour moi-même. Et donc, essayer de travailler au bénéfice de tous les êtres sensibles en vue de leur apporter une paix et un bonheur qui soient durables. Une solution définitive à tous les problèmes du monde, ce serait ça notre but ultime. Et ce but, c'est ce qu'on appelle habituellement l'éveil ou la bouddhéité. Et ce n'est pas quelque chose sur quoi on peut agir de façon extérieure. C'est quelque chose qui se fait par une transformation à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur de nous, par le développement de nos qualités positives, comme notre sagesse, notre compassion. Et ainsi, par le développement de ces qualités en nous, nous transformons la façon dont nous vivons et expérimentons les choses et les situations dont nous les voyons, la façon dont les choses nous apparaissent. C'est ça qui est transformé par le développement de nos qualités. Et donc, par là, en me transformant moi-même, je transforme tout mon monde. Et ce faisant, je comprends ce que je suis, je comprends quelle est la nature de toute chose, en quoi consistent les autres et en quoi consistent toutes les choses qui m'entourent. Et par cette compréhension profonde, qui n'est pas une compréhension uniquement intellectuelle, mais qui se situe plutôt sur le plan de notre façon de percevoir les choses, de notre expérience vécue, de l'expérience directe que nous faisons des choses, c'est ça qui se transforme. Je m'aperçois alors qu'en fait, tous les problèmes sont résolus. Mais ça, c'est un peu compliqué à notre niveau. Et donc, afin de travailler dans ce sens, d'abord, il y a ce chemin où j'essaye de devenir un meilleur être humain. J'essaie de devenir un être humain qui est davantage bénéfique. J'essaie de vivre dans ce monde une vie qui a du sens, qui est bonne à la fois pour moi et pour tout le monde. Et alors, comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je dois procéder pour arriver à ça? Eh bien, c'est de ce genre d'entraînement qu'il est question, et en fait, tout le livre ne fait que parler de ce genre d'entraînement. Et si nous arrivons à apprendre cela, alors, tout doucement, nous serons capables de découvrir réellement comment nous pouvons faire pour nous transformer complètement nous-mêmes et comment nous pouvons nous libérer réellement de tous nos problèmes, de nos émotions négatives, des façons erronées que nous avons de voir les choses et comment nous pouvons effectivement faire l'expérience d'une paix et d'une joie qui ne soient pas dépendantes du fait qu'on possède ou qu'on ne possède pas quelque chose. Et si on arrive à cela, de ce fait, on n'aura plus besoin d'être tellement dérangé, d'être tellement en colère, d'être tellement bouleversé, déstabilisé, renversé par à peu près tout ce qui nous arrive. Et donc, nous atteindrons, au bout du compte, ce qu'on appelle l'éveil, et alors, nous pourrons aussi essayer de venir en aide aux autres, les aider à vivre et à réaliser eux aussi cette expérience. Donc, en premier, nous essayons de travailler sur nous-mêmes. Et c'est pourquoi le chemin consiste, en bref, et après avoir développé la bodhicitta, en les six paramitas. Les six paramitas, c'est le chemin du Mahayana, ou des bodhisattvas, qui a été enseigné par le Bouddha lui-même. Ce chemin des six paramitas, il n'est en fait pas différent de l'octuple sentier dont on parle généralement dans le bouddhisme. L'octuple sentier et les six paramitas sont en fait exactement la même chose. Il n'y a vraiment pas une grande différence. Ce n'est qu'une différence de présentation. Les six paramitas commencent par la paramita du don ou de la générosité parce que c'est quelque chose qui... Le don, la générosité, c'est quelque chose qui aide, qui vient en aide aux autres. Mais dans ce livre, il n'y a pas un chapitre qui serait spécifiquement dédié et consacré à la générosité. Le chapitre 10, qui est la dédicace et en lien avec la générosité, ainsi que le premier chapitre, qui parle de la bodhicitta, de la compassion. En effet, ça parle d'avoir envie de venir en aide, de comment aider, de l'importance de cette intention de compassion, et donc, en quelque sorte, on peut dire que le thème de la générosité est couvert dans ces deux chapitres, le 1 et le 10. Et aussi, avant de prendre l'engagement ou le vœu du bodhisattva, on fait ce qu'on appelle la pratique en sept branches. Et en particulier, dans cette pratique, on voit comment faire des offrandes. Dans ce livre, il n'y a pas vraiment de description très détaillée de la façon de faire des offrandes matérielles. Parce que ce livre, il s'adressait avant tout aux étudiants de l'université de Nalanda, dont la plupart étaient des moines, qui n'avaient de toute façon pas grand-chose de matériel à offrir, je pense. Et donc ici, Shantideva insiste beaucoup sur le développement du sens du don, de l'envie de donner, de la motivation, de l'intention d'être généreux et de ne pas trop s'attacher aux choses. Même si par exemple vous voyez une belle fleur, ou quelque chose de beau, de plaisant, d'agréable, au lieu de penser « Ah, c'est vraiment bien cette chose, j'aime cette chose, je la veux, je dois tout faire pour l'obtenir. Si je l'avais, tout serait tellement merveilleux. Si au lieu de penser ainsi, je devenais capable d'offrir cette chose, en pensant « Ah, cette fleur est si belle, et je l'offre à tous les êtres éveillés, à tous les bouddhas du passé, du présent et du futur. » Parce qu'en fait, en faisant ça, on l'offre à tous les êtres en général, parce que tous les êtres sensibles sont inclus dans ce qu'on appelle les bouddhas du futur, de toute façon. Donc, si je pense ainsi, si je me dis cela, alors je peux profiter pleinement de la beauté de la fleur, sans pour autant avoir besoin de ressentir tout ce cortège d'émotions négatives, on peut dire. Toutes ces émotions, en tout cas, autour de l'idée que puisque cette fleur est belle, il me la faut. Qui donne ensuite des questions du type « Comment est-ce que je devrais faire pour m'approprier cette fleur, pour me l'octroyer, pour la posséder ?» Et de se dire « Ah, je n'ai pas cette fleur, et c'est parce que je ne l'ai pas que je suis malheureux. Et donc, quand est-ce que je pourrais l'avoir ?» Il faut que... Et ensuite, on se dit qu'on est prêt à faire beaucoup d'efforts pour obtenir, pour posséder cette fleur, et que si on y parvient, ça nous rendra heureux. Et que si on n'est pas heureux pour le moment, c'est parce qu'on ne possède pas encore, on ne dispose pas encore de cette fleur. Donc, si on est dans l'offrande, tous ces problèmes et ces émotions ne peuvent pas se manifester. Et en même temps, ça ne nous empêche nullement d'apprécier la beauté de cette fleur, etc. Et donc, les trois premiers chapitres, ils portent sur la bodhicitta. L'importance de la bodhicitta, comment prendre l'engagement des bodhisattvas, comment développer l'intention des bodhisattvas. Et ensuite, il explique, dans ces chapitres, on explique aussi la cérémonie au cours de l'appel de laquelle on peut prendre le vœu des bodhisattvas. Tout ça, c'est l'objet des trois premiers chapitres. Puis, les chapitres 4 et 5, ils portent sur ce que l'on appelle la conduite ou la façon positive de vivre. Dans les traductions anglaises de Padmacara, à laquelle je me réfère en général, Le titre du chapitre 4, c'est Carefulness. Et en français, c'est traduit dans la dernière édition de Padmacara par l'enseignement sur l'application. Et donc dans ce chapitre, Shantideva explique comment être plus présent, comment être plus conscient et comment être plus attentif, et aussi comment agir de façon plus consciente et plus attentive. Il explique combien il est important, quoi que vous fassiez avec votre corps, avec votre parole, ou même avec votre esprit, de ne pas agir inconsidérément, de ne pas agir dans la précipitation, de ne pas agir sans avoir réfléchi et examiné au préalable, sans être conscient de ce qui est en train de se passer, des effets que cela peut avoir, de la façon dont ce que vous faites vous affecte vous-même, et de comment ce que vous faites affecte aussi votre entourage, les personnes autour de vous, tout ce qui vous entoure. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose de nuisible, quelque chose qui cause du tort à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose d'utile, de bénéfique, quelque chose de positif? Il s'agit donc d'être un peu plus présent, attentif et conscient. Un exemple qui a été donné par le Bouddha, c'est que si vous vous levez, par exemple, eh bien, vous le faites en étant conscient que vous êtes en train de vous lever. Vous savez que vous êtes en train de vous lever. Et puis, si vous voulez, par exemple, vous mettre en route, vous avez conscience. Vous savez que vous êtes sur le point de vous mettre en route. Et puis, quand vous faites le premier pas, vous êtes également attentif au fait que vous êtes en train de faire ce premier pas. Vous vous assurez que vous ne posez pas le pied sur quelque chose qui serait nuisible ou dommageable pour un autre être ou qui ne serait pas, par exemple, très bon pour vous-même. Par exemple, vous n'aimeriez pas marcher sur quelque chose de sale ou de dangereux ou qui serait susceptible de vous causer du tort. Et vous ne voudriez pas non plus marcher sur un être vivant. On essaie donc d'avoir connaissance et conscience de tout cela. C'est cela qu'on appelle être attentif. On fait en sorte que, avant même d'agir, nous examinions, nous devenions attentifs et nous essayions de voir si cette chose que nous sommes sur le point de faire, ou cette chose que nous sommes sur le point de dire, ou même ce que nous envisageons d'exprimer en termes d'émotion, nous faisons attention et nous nous demandons est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Est-ce que c'est nuisible ou non? Parce que, quoi que nous fassions, nous aimerions que ce soit bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres. Et donc, si je sais très clairement, si j'arrive à savoir très clairement que telle action ne va pas être utile, ne va pas être bénéfique, qu'elle serait nuisible, qu'elle créerait des problèmes pour moi-même et les autres, et qu'elle pourrait fort bien ne résoudre aucun problème, alors sans doute, si j'avais cette conscience, ça me donnerait la possibilité de m'en abstenir. Et c'est probablement ça que je préférerais faire, m'abstenir. Donc, on essaie de réfléchir à tout cela, de comprendre, et puis, tout doucement, on prend l'habitude de procéder ainsi. C'est vraiment d'un entraînement qu'on parle ici, dans le chapitre 4 sur l'application. Et ensuite, on se demande comment faire. Comment faire pour atteindre cet objectif de devenir un peu plus présent, un peu plus conscient et attentif. Le mot tibétain, pour cela, c'est pailleux. Et pour cela, nous devons devenir vigilants. Très souvent, nous faisons des choses sans faire attention, presque sans nous rendre compte que nous sommes en train de les faire. En anglais, le chapitre 5, il est traduit par l'introspection vigilante. En français, c'est simplement la vigilance. C'est le mot tibétain shijin qui a été traduit ainsi. Mais ce mot, en fait, il signifie davantage être conscient. Et donc, afin d'avoir cette présence dont on parlait au chapitre précédent, il nous faut devenir conscient, attentif à ce qui se passe, à ce qui est en train d'arriver, ce qu'il y a autour de nous, quelle est la situation, etc. Si on devient conscient de tout cela et qu'on arrive à y regarder d'un peu plus près, un peu plus en profondeur, Puisque nous ne sommes pas idiots, nous allons découvrir comment nous saurons déterminer si ce qu'on s'apprête à faire est quelque chose de bien ou de pas bien, d'utile ou de nuisible, qui aide ou qui n'aide pas. On préférerait en général s'abstenir des choses qu'on regretterait par la suite. Et c'est quelque chose qui en fait arrive très souvent. Quand nous faisons quelque chose, que ce soit un acte du corps, une parole ou même une émotion, à de très nombreuses reprises, nous en venons par la suite à regretter. Après coup, nous regrettons ce que nous avons fait. Et si nous remarquons que nous avons un regret, c'est le signe que sans doute nous n'aurions pas dû faire ces actions et que probablement, si nous avions eu cette présence d'esprit, cette conscience, lorsque nous étions sur le point d'agir, nous nous serions abstenus. C'est pour ça que nous avons besoin, tout doucement, d'apprendre cela, d'apprendre à devenir plus conscient en amont de nos actes, paroles et de nos pensées. Et bien sûr, il ne s'agit pas non plus de dire que si on commet une erreur, on devrait se sentir coupable toute notre vie. Ce qui est fait est fait. Mais nous avons besoin de devenir un petit peu plus conscients et de travailler sur ce point. Et c'est ce dont parle le chapitre 5. Comme nous avions déjà parlé de ces 5 chapitres, je ne vais pas rentrer davantage dans les détails. Vous pouvez regarder les vidéos, si vous le souhaitez, écouter les fichiers audio, lire le livre, comme c'est le mieux pour vous, comme bon vous semble. À partir de la prochaine fois, nous allons étudier le chapitre 6 qui porte sur la patience. Je vais m'arrêter là. Je crois que ça a duré un peu plus de 20 minutes cette fois. Merci beaucoup, à la prochaine fois, et d'ici là, portez-vous bien, et j'espère que tout se passe au mieux pour vous, et que la pandémie va s'arrêter au plus vite. Merci beaucoup.